Comme promis, je vous propose cette nouvelle lecture Poppy Play de l'auteur Philippe Aubert-Côté. C'est aux éditions À lire dans la collection Le Mi-temps. J'ai le plaisir donc de lui jaser. On s'était jasé aussi il y a quelques années concernant le sculpteur de vœux. Philippe Aubert-Côté, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Ben, c'est un plaisir de vous recevoir encore, Monsieur Côté. Là, comme je l'ai mentionné, on s'est parlé il y a quelques temps, quelques années, parce que c'était quoi, en 2020, le sculpteur de vœux?
2020, en pleine pandémie.
En pleine pandémie, c'est vrai. Et là, on est complètement ailleurs avec Poppy Play.
Oui. Oui. Et on n'est plus en pandémie aussi, ce qui
fait bien.
Oui, on est complètement ailleurs parce que le sculpteur de vœux, c'était un roman de fantasy urbaine, là, qui était à la sauce manga. Tandis qu'avec Poppy Play, on est vraiment dans un récit d'horreur, mais qui est ancré dans le fantastique. Pour ceux qui connaissent un peu l'horreur, là, je le compare un peu aux œuvres de l'écrivain Clive Barker, un écrivain britannique qui a aussi réalisé des films. Je pense à la série Hellraiser que certains connaissent sûrement. Là, le même genre d'univers glauque avec plein de sous-entendus LGBT et queer. Là. Clive Barker est un auteur queer. Puis dans ces films, on voit des histoires de monstres et tout ça, mais quand on regarde à l'esprit que c'est une personne queer, ces histoires prennent un tout autre sens. Donc on est vraiment dans cette veine-là avec Poppy Play.
Oui, et vous êtes un auteur queer vous aussi, M. Côté.
Oui, queer, gay pour être plus précis de même, puis c'est quelque chose que j'aime mettre en œuvre aussi dans mes récits, là, mettre des personnages queer en interaction avec des personnages hétéros. On le voyait dans Sculpteur de vœux, là, mes trois personnages étaient un peu dans une sorte de troupe, là, inter-espèce même fantastique, là, donc il n'y a pas plus couvert que ça.
Oui, et là, vous nous invitez dans cette novella Poppy Play. C'est court, mais c'est intense, là.
Oui, très intense. C'est parce que après avoir fait de la science-fiction puis de la fantasy, je voulais expérimenter l'horreur.
Mm-hmm.
Et qui entre nous et tous les auditeurs qui nous écoutent, le genre que je trouve le plus dur à essayer puis à maîtriser, là, comparé aux autres. Et ça s'inscrit beaucoup dans l'horreur corporelle et graphique ici. Donc, un spectre de l'horreur où c'est intense, il n'y a pas d'ambiguïté, on n'est pas dans la subtilité, mais ça va très bien avec le sujet. T'sais. Vous allez avoir des histoires beaucoup plus tranquilles, là, des histoires de fantômes où tout s'inscrit dans les petits détails. Avec Poppy Play, là, on est vraiment dans le spectre surnaturel et très explicite.
Effectivement. Moi, je vous l'ai dit, là, certains moments, je fermais le livre, je me laissais digérer ce que je venais de vivre et ensuite, je poursuivais. Mais Poppy Play, ça fait combien de temps que... Est-ce qu'on parle d'une communauté ou...
C'est... moi, je le considère un peu comme une sous-culture anthropologique. C'est très vaste comme sujet, mais pour faire très court, c'est que ça a commencé comme étant un jeu fétichiste où les protagonistes se déguisaient, tu sais, en animaux, tu sais, souvent en chiens.
Oui.
Ça a commencé dans les communautés queer qui ont apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Poppy Play, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, ça peut remonter. Il y en avait des observations dans les années 70-80. C'était un jeu où un partenaire jouait vraiment la soumission par rapport à un partenaire de jeu dominant.
Mm-hmm.
Mais au fin des années 90, aux alentours du début des années 2000, ça a évolué en quelque chose d'autre. Là, les Poppy Players qu'on voit aujourd'hui, qui appartiennent à la nouvelle garde, s'habillent avec des costumes très colorés. Il n'y a pas nécessairement d'activité sexuelle associée à cela. Ils vont juste faire du social habillé comme ça. Ils vont faire des activités communautaires, de la culture de pommes, des activités de tous les jours. Des fois, on les voit, on en voit plusieurs des fois se promener dans le village gay à Montréal. Mais ils font juste prendre une bière, rire, aller à des spectacles demain. Tu sais. C'est comme un équipement plus esthétique. Mais c'est aussi une vision de vie dans le sens que pour plusieurs Poppy Players, cette apparence-là, cet alter ego canin-là ou animalier qui s'invente vont être une extension de leur personnalité. Et je connais des Poppy Players que c'est quand ils ont leur équipement, leur masque, tout ça, tu sais, là, ils interagissent avec les gens, ils ont du fun, et là, on a l'impression qu'on est face à la vraie personne.
Ah!
Quand elle est bien de même. Le parallèle que je fais, c'est un peu le mouvement punk des années 70 puis 90, qui venait avec une esthétique, une vision de la vie, un art, là. Les punks recyclaient des fois le cuir, les épingles pour bébés, puis d'autres, les chaînes, tout ça. Il y avait une vision. Le Poppy Play contemporain me semble plus se rapprocher de ça. C'est une petite dimension totémique aussi. On se choisit un alter ego animalier demain, puis on revêt une apparence associée à cet alter ego-là qui représente notre personnalité.
Oui.
Donc tout ça se mélange, puis c'est vraiment une culture particulière au sein du milieu LGBT.
Très intéressant à découvrir ce nouveau livre Poppy Play, Monsieur Côté. Chaque personnage, vous l'avez mentionné, a son nom, mais a son surnom également. Entre autres, ouais. Celui qu'on suit là du début à la fin, c'est Hugo Saint-Hilaire, qui lui se surnomme Cookie Pop.
Ouais, parce qu'il aime, c'est son surnom dans la communauté, parce que il aimait les biscuits, il aimait cuisiner les biscuits de sa grand-mère qui avait un peu les pouvoirs de sorcière là. Uh-huh. Donc il y a une allusion à ma propre grand-mère qui cuisinait beaucoup, là. Mais j'ai pas essayé de faire ses biscuits, là. Je réussis. Je commence à réussir son fudge. Déjà ça.
Au moins ça. C'est ouais. une lecture pour lecteurs avertis?
Oui, très avertis. Si c'était un film d'horreur qui passait à la télé, il y aurait avant un petit avertissement qui dirait « Attention, le film que vous allez voir s'adresse à un public de 18 ans et plus parce qu'il contient des scènes de violence, d'horreur et d'érotisme, évidemment. » Là, oui. Donc, et il faut avoir les nerfs accrochés. Là. Je faisais la comparaison avec Hellraiser de Clive Barker, c'est dans la même veine.
On est dans le suspense aussi à travers cette nouvelle-là.
Oui, oui. Puis c'est un suspense très artistique aussi, dans le sens où vous parlez de Cookie Pop, oui. qui est un puppy player qui a des ambitions littéraires aussi, artistiques, hein, parce que son fun, c'est de prendre des photos de la communauté LGBT puis de les mettre sur Instagram avec des vignettes, inventer des petites histoires. Lui, il recherche le succès.
Il est passionné de ça, lui, là.
Oui, il est passionné de ça. C'est ça, l'idée de l'Instagram, je l'ai emprunté à l'auteur Gabriel Cholette, qui avait écrit Les Cavaliers de l'Underground, qui a un ami, d'ailleurs, il est cité dans les remerciements. Et Cookie Pop passe, justement, une sorte d'accord avec des entités d'un autre monde pour avoir un certain succès. C'est un pacte un peu faustien. Mais ça va, évidemment, là, le lecteur va prendre conscience que, oh, ce pacte-là a des effets secondaires que Cookie Pop ne voit pas. Et là, ça crée un suspense. Est-ce qu'il va arriver? Et évidemment, ça dérape. Il faut que ça dérape, sinon on n'aurait pas d'histoire. Donc, il y a un suspense à ce niveau-là. Mais c'est très, ça interroge aussi beaucoup, tu sais, l'artiste, la création artistique.
Et dites-moi, est-ce que ça a été un exercice difficile dans le sens où peut-être que ce livre-là aurait pu avoir 300, 400 pages, mais là, vous êtes en bas de 200 pages, on est à 156. Est-ce que ça a été difficile de condenser peut-être votre histoire? Je ne sais pas de quelle façon vous l'avez préparée, là, mais...
Mais au partant, c'est sûr, on m'avait dit que pour les mi-temps, c'était 33 000 mots maximum. Mm-hmm. Je pense que j'ai réussi à faire 31 000 mots okay. De mémoire. C'est sûr que c'est un défi. Puis, je trouve pas que des fois les contraintes de longueur sont des défis intéressants parce que je me dis l'histoire doit avoir la longueur qu'il faut. Mais c'est intéressant à relever pour dire il faut que l'histoire fitte à l'intérieur de ça. J'ai structuré donc en conséquence. C'est vrai que c'est un petit défi, mais ça a été quand même facile à faire. Mais ça a été une bénédiction parce que pour faire ce livre-là, moi je suis allé faire une enquête de terrain. Je suis allé interroger la représentante de la commune annuelle pour 2024 de la communauté POP, parce qu'on est représentant, eux, élus à chaque année dans un concours.
Oui.
Puis j'ai fait une enquête de terrain, puis ils m'ont accueilli. Les popis, ils ont répondu à mes questions, c'était super le fun. Et j'ai amassé assez de matériel pour faire en effet un très gros roman. Mais je me suis dit, pourquoi tout gaspiller dans la même histoire? Parce que j'ai d'autres récits d'horreur que je prépare qui se passent aussi dans le Montréal, qui existent. Puis je me suis dit, mais ce matériel accumulé-là va pouvoir servir à d'autres histoires. Il y a des éléments dans Poppy Play, de décor, entre autres, qui vont revenir dans d'autres livres. Et même, si on est très attentif, il fait allusion dans Poppy Play à une petite histoire. C'est juste quelques lignes, ça revient pas du reste du récit, mais c'est ça qui va constituer le cœur du prochain roman que je m'apprête à écrire le mois prochain. Donc, tout est interrelié. C'est ça qui a été le fun, c'était une démarche vraiment de collecte de données. Mon petit côté universitaire est pas loin, là.
Oui.
J'ai tellement amassé un matériel passionnant pour faire des histoires, et je me dis, mais mon Dieu, ça va pouvoir servir à plusieurs histoires. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué de me faire tenir tout ça dans une novella, mais en même temps, ça va m'en donner plus pour la suite. Donc, comme dirait Mamie, justement, puis ses biscuits, ben, on va ménager. Les restants, on va les récupérer pour faire autre chose.
Donc, il y a certains personnages qu'on pourrait peut-être retrouver un jour?
Oui, il y a un café que j'ai inventé qui s'appelle le Wolf Café, qui est tenu là par un haïtien qui fait pas du poppy play, mais qui est surnommé affectueusement Grimuzo, puis qui possède un petit chien noir qui s'appelle Santos, qui est calqué sur un chien qui est dans mon immeuble, qui est tout à fait adorable.
Oui.
Puis je me dis, ces deux-là, il faut qu'ils reviennent de temps en temps, là, comme un lieu récurrent où quand les gens ont besoin de se conseiller parce qu'il arrive de quoi de surnaturel, ils se rendent toujours à cet endroit-là, par exemple. Donc ça, j'aimerais bien récupérer le Wolf Café. Oui. Et comme la fin est ouverte, c'est pas impossible que je fasse des allusions à ce qui aurait pu arriver après Poppy Play dans d'autres récits.
Ah.
Donc, c'est en délibération en ce moment.
Oui, on parle de suspense, on parle d'horreur, de fantastique, tout ça, mais avec les différents surnoms et tout ça, il y a un petit côté humour là, léger quand même là, dans Poppy Play.
Il y a un humour léger, mais ça reflète aussi cette communauté-là. Les Poppy Players sont très joyeux, très enthousiastes. C'est vraiment du bonbon les mettre en scène, tu sais.
Oui, hein?
Je présentais avec eux que c'était d'ailleurs une belle occasion pour une histoire d'horreur, parce que comme disait mon oncle Stephen King, c'est-à-dire, lui, il disait, bon, comment je fais une histoire? Je commence par rendre des personnages sympathiques, après ça, je lâche les monstres. C'est, il faut du monde sympathique pour qu'une histoire d'horreur fonctionne.
Mm-hmm.
Et les Poppy Players sont tellement sympathiques, c'est facile de les mettre en scène, et le petit côté humoristique qu'on voit dans le livre vient reflète justement leur vraie nature.
Et moi,
j'ai des membres de la communauté qui ont lu mon livre puis qui m'ont dit, mon Dieu, que beaucoup de scènes que je montrais, c'est tellement réaliste. Il y a une scène, par exemple, où ma gang des Poppy Players, ils ont tous leurs masques, leur équipement, mais ils sont juste étendus dans un grand lit, mais pour écouter un film.
J'ai trouvé ça bon.
Exactement. ça, c'est une scène très réaliste. Des fois, ils vont écouter des films comme ça. Ça reflète la réalité.
Moi, j'invite les gens à se procurer Poppy Play, une belle découverte de mon côté aux éditions à lire. Et je rappelle, c'est dans la collection Le Mi-temps. Et puis, c'est 156 pages, $18.95. Poppy Play avec Philippe Aubert-Côté. Je vous remercie beaucoup. Ça a été fort agréable de vous jaser ce matin.
C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir.
Bon succès, puis à une prochaine, j'espère.
À une prochaine. Merci.
Bye-bye.